Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Lemerrer, le directeur des Journées de l'économie. Je tiens à vous féliciter pour le jeu de piste improvisé que vous avez réussi à dominer en arrivant ici. On est totalement désolé, évidemment, de cette situation où dimanche soir, on avait finalement l'institution qui portait la matinale, qui était dissoute avec les parlementaires qui faisaient leur carton. Et il nous restait moins de 24 heures pour trouver une solution pour arriver quand même à nous réunir. Je tiens à remercier d'abord la Banque de France et ses services, et Vincent Bignon en particulier, qui s'est quand même mobilisé. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé en moins de 24 heures mardi pour arriver à recréer une matinale avec une configuration qui nous paraisse adaptée. Donc, on va aller très vite parce que vous avez vu qu'on n'a que 2 heures. On s'est inséré évidemment dans l'agenda de la Banque de France. Je trouve que déjà, on a beaucoup de chance de pouvoir le faire. On commencera par la remise du prix du livre d'économie de l'Association française de sciences économiques et des journées de l'économie avec la présidente du jury qui va assumer cette fonction, Annie Cotte. Et puis, on passera immédiatement à la table ronde hein, sur comment améliorer les performances de notre système éducatif, qui était une question qui tenait vraiment à cœur à la présidence de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un vrai sujet qu'en ce moment, nos enfants passent par l'école et passent par l'école pour d'abord être des citoyens à part entière et que la vie démocratique d'un pays dépend de cette capacité à former des citoyens à part entière par l'école. Donc je pense que c'est un sujet qui est crucial et dont l'actualité est évidente. Donc je commence tout de suite par donner la parole à Nicotte. On va aller le plus vite possible pour permettre à chacun de s'exprimer et on va passer à cette remise du prix des livres d'économie.
Bonjour, merci encore. Aux remerciements adressés à vous pour avoir trouvé la Banque de France, c'est quand même pas le bout du monde. J'ajouterai quand même les remerciements à 5 personnes qui ont rendu cette matinale possible aujourd'hui, à la Banque de France, Vincent Bignon, Fabrice Hermel et Hélène Jocelyn, qui ont été absolument formidables, qui ont bougé, tiré, poussé. Nous serons délogés de cet amphithéâtre à 11 h parce qu'on n'était pas du tout prévu. Théoriquement, la Banque de France a plutôt un planning de 3-4 mois avant de réserver ses salles. Et puis, Jean-François Chanet et Yannick Trigance, qui ont quand même accepté au pied levé de venir, non pas remplacer les parlementaires, mais compléter cette table ronde et y participer, puisque, Pascal l'a dit, les parlementaires étaient soit en train de sauver les meubles dans leur circonscription, soit en train de faire des cartons, soit en train de négocier avec des couteaux, des épées, du poison dans des fioles. Voilà. Alors, chaque année, vous le savez pour certains d'entre vous, le jury composé par des membres du comité directeur, dont deux sont ici, remet des prix des meilleurs livres d'économie 2023, puisque nous nous arrêtons au 31 décembre 2023. Alors, cette année, j'annonce tout de suite les livres, je les présenterai. Le prix des livres de l'AFSE est donné à un repère, c'est jamais arrivé, je crois, d'avoir un prix unique donné à un repère, qui a été dirigé par Luc Béagle, Marc Gurgan et Julien Grenet. Luc, du coup, va participer à la table ronde, puisqu'on a choisi ce titre, Économie de l'éducation, comme titre de la table ronde. Nous avons deux accessites. Alain Quinet, le risque militaire et la question sociale. Non, pardon. Alain Quinet, l'économie de la guerre. Ça, c'était le titre de. Comment s'appelle? Je divulgage. Alain Quinet, l'économie de la guerre. Arnaud Orin, les savoirs perdus de l'économie. Et une mention à Pascal Saint-Amans. Voilà. Alors, je vais faire vite. Je vais présenter beaucoup, de manière beaucoup plus synthétique que ce que j'aurais dû faire, mais. On n'a pas le temps. Alors, premier livre, petit repère. Que vous soyez prof universitaire, lycéen, prof de lycée ou simplement intéressé par les questions de l'éducation, il fait vraiment, vraiment, vraiment le point. C'est un repère publié à la Découverte, en général les repères. C'est un petit ouvrage par la taille, donc il a la taille d'un repère, vous le voyez. Il présente de manière très synthétique, très claire, très dense, les développements depuis 40-50 ans de l'économie de l'éducation, depuis les années 60, ça fait plus d'ailleurs, 60 ans, et qui propose des analyses et des éléments de réponse aux grandes questions qui sont soulevées par la crise de légitimité et d'efficacité du système éducatif français. Alors, je ne vais pas reprendre ces questions, je pense qu'elles sont discutées lors de la table ronde. Donc, je vais vite, je voulais vous résumer le livre, faire des commentaires, tout ça saute. En revanche, la règle de ce jury est d'offrir des livres anciens d'économie, d'auteurs anciens, et on a eu beaucoup de mal cette année, mais je remets donc à Luc trois ouvrages. Il y a écrit Luc 1, Luc 2, Luc 3, viens là. Je te laisse les ouvrir et les montrer et dire deux mots sur l'ouvrage, si tu veux.
Merci beaucoup. Je suis évidemment un peu déboussolé par ces cadeaux. Et ouvrir. Mais je vais vous montrer. En plus, c'est du livre historique. Alors, bon, ça peut être évident de voir, mais vous voyez qu'il a, bien. Allez. Année 1881, l'éducation nationale par Félix Pecco. Ah ben ça, c'est super, franchement. Donc, voilà, sur l'éducation nationale, 1871 à 1879. Et alors, j'avoue que je ne connaissais pas Félix Pecco, mais je devrais peut-être.
Vous répartirez.
Bon, voilà, on se répartira les livres, mais je pense qu'on va se les. Luc 2. J'ai l'impression d'être un anniversaire avec mes enfants qui attendent.
Ils sont trois ou pas, c'est pas pour toi.
Ah oui, d'accord. Alors, la question du travail par le docteur Charles Pellarin. Donc, encore plus ancien, 1876.
C'est lié à l'éducation aussi.
Vous avez beau la faire enterrer par vos commissions parlementaires et autres, toujours elle ressuscitera jusqu'à ce qu'elle ait reçu sa solution. Voilà.
Et Luc 3.
Luc 3. Pardon, je ne me trompe pas. J'ai pris celui d'un des autres. L'éducation de la démocratie française, Léon Bourgeois. Alors ça, je connaissais. Cela dit, je ne crois pas que j'ai lu son livre. Donc, discours prononcé de 1890 à 1896. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que le mieux, c'est qu'on garde pour le, voilà, pour le débat.
Il a table ronde après.
Je garde quand même mes livres.
Alors, deuxième ouvrage, Arnaud Orin, Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant, publié chez Gallimard. C'est un très beau livre. C'est un livre qui analyse. C'est assez rare d'avoir des points de vue très originaux en histoire de la pensée économique. C'est parfois un peu mon métier, et qui analyse deux autres formes de savoir du XVIIIe siècle qui ont été écartées d'une certaine manière par la physiocratie et l'émergence de l'économie politique classique, in statu nascendi. Donc, des savoirs perdus, selon Arnaud. Alors, premier savoir, la science du commerce. Deuxième savoir, la physique économique. Donc, ce sont des chemins, pour employer son terme, sur lesquels les sociétés modernes se sont engagées, puis qui ont disparu. Alors, en redonnant son actualité historiographique à ces deux savoirs, la science pratique des négociants, l'ars mercatoria, développée autour de Vincent de Gournay, c'est un nom qui vous dit quelque chose, et de Véron de Forbenay, Arnaud remet... en lumière, sous les projecteurs, d'une part une démarche inductive, on dirait bottom-up aujourd'hui, mais c'est inductive, donc qui va s'opposer à la méthode des physiocrates. En d'autres termes, on voit que le Methodenstreit, qui a couru depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, commence à se constituer, ces débats de méthode commencent à se constituer pour la discipline économique dès le XVIIIe siècle, propose d'adopter une rhétorique dialogique, un dialogue à plusieurs voix qui connaît une actualité politique depuis quelques jours. Et d'autre part, la physique économique héritée de Linné est centrée sur une utilisation rationnelle des ressources naturelles, là aussi un thème tout à fait d'actualité avec le développement de l'économie de l'environnement, de l'économie écologique et les problèmes de climat. Voilà, donc Arnaud Orin, fait de l'histoire contemporaine de théories passées, c'est-à-dire en éclairant un certain nombre de débats à la lumière de débats très contemporains. Arnaud, voilà, c'est tout petit.
Je te laisse. Délicat.
Oh, je sens une édition du XVIIIe siècle. Discours de M. Mirabeau-Lainé sur les questions monétaires, ajourné au jeudi 9 décembre par le décret de dimanche 5, prononcé dans la séance du dimanche 12, imprimé par ordre de l'Assemblée nationale à Paris. Merci beaucoup.
C'est un clin d'œil au fait que le précédent ouvrage d'Arnaud était sur John Law, donc un peu sur les questions monétaires.
Tout à fait, tout à fait, et qui s'intéressait d'ailleurs à la question des assignats. Merci, merci beaucoup. Merci à l'AFSE, merci au jury et à sa présidente Annie pour cette récompense qui m'honore. Une récompense que je reçois avec une certaine surprise, pour vous dire la vérité, puisque cet ouvrage, dans sa longue conclusion, parle de la discipline dans son présent, parle de la discipline aujourd'hui, et appelle à une refondation assez profonde des savoirs économiques. Je ne parlerai pas de sciences économiques, mais des savoirs économiques. Alors, tu l'as dit, une refondation fondée sur un triptyque, en gros, la démocratisation des savoirs économiques, c'est-à-dire un vrai travail des savants et des chercheurs avec les praticiens de l'économie, dans des dialogues qui sont beaucoup plus importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui, une refondation historique, au sens où faire de l'histoire économique, c'est faire de l'économie tout court, à mon sens, c'est faire de l'économie pour aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de justifier, finalement, le fait que la sous-discipline d'histoire économique serait quelque chose qui serait annexe un peu au savoir économique contemporain. On a besoin d'histoire économique pour faire de l'économie aujourd'hui. Et troisièmement, qui est probablement le plus difficile pour les savoirs économiques contemporains, c'est rapprocher les savoirs économiques des sciences du vivant. Rapprocher les sciences humaines et sociales des sciences du vivant. J'ai présenté ce livre à un colloque de Cerisy en juillet dernier devant un panel de présidents de présidentes et de présidents d'universités et de directeurs de MSH. Et je les ai invités à proposer de plus en plus, et peut-être qu'on en parlera puisqu'il s'agit d'une table ronde sur l'éducation, à proposer des cursus qui soient de moins en moins cloisonnés entre sciences humaines et sociales et sciences du vivant. Des choses qui commencent à émerger, par exemple à Stanford, avec un programme de première année. Petit, bien sûr. Petit discours. Je termine. Des choses qui commencent à émerger à Sciences Po, des choses qui pourraient émerger dans nos universités et qui pourraient, effectivement, nous permettre de transformer progressivement nos savoirs économiques en une science des interactions entre les humains et les non-humains. Voilà. Je vous remercie. Je remercie encore une fois le jury et ce très beau livre.
Alors, deux autres... prix, ça va peut-être être plus court puisque Pascal Saint-Amand n'a pas l'air d'être là. Alain Quinet, économie de la guerre, qui a déjà été récompensé par, je dirais pas de nombreux prix, mais en tout cas le prix Turgot, et qui est un ouvrage qui a plusieurs facettes. Première facette, depuis le XVIIIe siècle, ouvrage publié par Economica, pardon, j'aurais dû dire ça devant Pavlevski. Première facette, pendant longtemps, les économistes ont posé la question de la guerre dans les termes posés par Montesquieu, repris par Albert Hirschman, des passions et des intérêts. En d'autres termes, le doux commerce était supposé remplacer les passions et donc la guerre et la violence par l'intérêt, par l'échange au lieu de la guerre. Et le règne de l'intérêt personnel. Ça n'a pas fonctionné, on le voit encore aujourd'hui. Et donc, si l'histoire montre que la question n'est pas si simple... Alain Quinet interroge cette relation qui n'est pas une relation de remplacement entre la guerre et le marché ou la guerre et la vie économique et donc analyse les différentes facettes des relations entre les enjeux de théorie économique avant les guerres, pendant les guerres, après les guerres, les formes différentes, comment on finance une armée, comment le rôle des sanctions économiques, etc. Je ne reviens pas, il faut que je monte les livres. Voilà, ça c'est le livre. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est intéressant aussi sur l'état de l'armée, Alain n'est pas militaire, mais c'est qu'il se situe toujours à une frontière, la frontière à laquelle se développe, aux frontières plutôt, auxquelles se développe la recherche actuelle, c'est-à-dire entre la théorie économique, l'histoire, la géopolitique, la psychologie, la sociologie et la théorie des jeux. Donc on a un éventail assez large d'outils intellectuels, académiques et théoriques qui traitent la question des relations entre économie et guerre. Voilà, donc c'est un ouvrage que je... En plus, oui, j'ai oublié de dire que c'est un domaine qui est en train de se développer, l'actualité le pousse un peu, et c'est un domaine qui avait été relativement peu exploré. J'ai déjà dit tout à l'heure à Alain qui avait un prédécesseur merveilleux, qui était Otto Neurath, un des fondateurs du Cercle de Vienne, qui a écrit des très jolies choses sur l'économie de la guerre. Voilà. Le prix.
Merci beaucoup, Annie. Alors, j'adore les bouquins, surtout quand ils sont un peu anciens. Bon, je vais l'ouvrir délicatement. Magnifique. Ah ben voilà, vous aviez défloré le sujet. En fait, le risque militaire et la solidarité sociale du capitaine Léonce Doucet. Ben, je vais découvrir ça avec grand plaisir. Ce sera une excellente lecture de week-end. Voilà. Mais je vais être très court, hein, parce que je crois que le temps est pris, mais je voudrais simplement remercier le jury de la FSE et Annie de s'être penchée avec bienveillance sur ce livre « Économie de la guerre ». C'est un livre que j'ai écrit en fait en visant un double public, hein, à la fois le public économique et puis aussi le public militaire, qui a besoin aussi de se frotter un peu plus à l'économie. Et évidemment, je suis très sensible à ce prix, parce qu'il marque la reconnaissance de ses pairs, et évidemment, ça a une très grande valeur. Écoutez, je vous souhaite, je vais m'arrêter là très simplement, et puis j'espère qu'il pourra vous intéresser. Effectivement, le retour du tragique sans doute fait que un livre qui était un sujet de niche il y a quelques décennies, pendant les décennies des dividendes de la paix, redevient un sujet d'actualité. Écoutez, merci beaucoup, et puis bon débat sur l'éducation.
Dernier ouvrage, mais Pascal Saint-Amand n'est pas là, l'ouvrage de Pascal Saint-Amand, Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire. C'est une mention, c'est pas un prix ou un accessite, c'est une mention, c'est-à-dire que l'ouvrage concerne un sujet difficile qui avait été très peu traité et qui est presque un ouvrage de témoignage, puisque Pascal Saint-Amand a consacré 20 ans de sa vie professionnelle à cette question des paradis fiscaux et de la lutte contre les paradis fiscaux, contre les niches fiscales, contre le secret bancaire. Voilà, donc il retrace cette période en rappelant que les gouvernements ont commencé à réagir après la crise financière de 2008, donc extrêmement récemment, et il reprend une présentation des grands paradis fiscaux, il raconte les négociations internationales, il raconte le lobbying des multinationales, la mise en œuvre d'un début de régulation, et l'ouvrage est passionnant, c'est presque une autobiographie, c'est presque un reportage, mais c'est un ouvrage aussi d'économie. Donc je regrette que Pascal Saint-Amand ne soit pas là, il va peut-être nous retrouver, et à ce moment-là, je ne vais pas ouvrir son prix, d'autant plus qu'en histoire de la pensée économique, comme il le dit très bien, le sujet a commencé à être traité à partir de 2008, j'ai trouvé un ouvrage qui traite de monnaie, de finances, etc., mais vraiment pas de paradis fiscaux.
Avant de conclure cette matinée, je voudrais redonner la parole à Annick Cotte, puisqu'il y a un bout du palmarès qui est maintenant présent.
Alors, Pascal Saint-Amand, j'ai déjà présenté le livre, mais je vais l'appeler, je vais lui remettre son prix. Je lui laisse la parole pour 2 minutes parce qu'on doit quitter l'amphithéâtre.
C'est
C'était bien.
Merci. Et désolé d'être arrivé en retard. On est tous un peu perturbés, n'est-ce pas, par ce qui se passe depuis dimanche. Trois mots, merci beaucoup. Je vous encourage à lire Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire. C'est le deuxième mot, parce qu'il va falloir financer tous les besoins de l'éducation nationale pour améliorer le système, et ça va nécessiter beaucoup de sous. Je ne suis pas de l'inspection générale des finances, mais je viens de Bercy à l'origine, où la tradition est de dire non, quelle est la question. Et donc, voilà, là, je pense que la réponse est oui, mais il faudra poser la bonne question. Mais pour faire oui, il faut ramener plus d'argent et lutter contre les paradis fiscaux. Ça va ramener entre 200 et 300 milliards d'euros par an au niveau mondial. C'est fait, et je vous invite à ne pas écouter seulement les gens qui disent « c'est pas vrai, c'est pas assez, machin ». Quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les prendre, et puis ensuite, il faut les utiliser. Et ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est une bonne nouvelle. Le troisième point qui fait un peu écho au débat, et qui est un peu négatif, mais on vit dans une période un peu compliquée, ma femme a 25 ans d'éducation, enseignante en petite section, et elle vient de démissionner parce qu'elle n'en peut plus, parce que le système vraiment est en train d'imploser. Mais il faut espérer que dans les dimanches qui viennent, on vote tous correctement pour arriver à un meilleur résultat. Merci. Ah, il faut montrer le livre. Alors, je vais vous montrer le livre.
Et le livre, c'est La monnaie, je ne connais pas, de Mossé. C'est ça. Donc voilà le livre. Merci beaucoup.
Bien, bravo Pascal, et merci à toutes et à tous pour votre participation, et merci évidemment au panel que vous pouvez saluer à votre tour.